7h-10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Seize.
Chers amis, il est 8h44 et 8 secondes. Dans 10 minutes, ce sera l'analyse de Xavier Aymant, qui lui aussi revient sur les municipales avec son lot d'anecdotes aberrantes et d'annonces inquiétantes. Mais tout de suite, c'est la chronique d'Alexandre de Galzan.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Alexandre, à nouveau.
Rebonjour Richard.
Alors la semaine dernière, vous nous aviez fait une chronique hyper sérieuse, mais là c'est le retour des blagues, de l'humour, du divertissement. Vous êtes en première loge, on vous fait confiance pour nous faire rire en toute légalité. On est vraiment en plein suspense ici sur Radio Courtoisie.
Oui, oui, vous connaissez mon affection toute particulière pour les propos républicains, donc n'ayez aucune crainte. Bon alors d'abord les municipales, moi je vais vous donner mon avis franchement. Bah vous savez, tous les partis de LFI ou RN revendiquent la victoire. Mais la vraie perdante, c'est la démocratie.
Ah la vache, vous n'avez pas peur de vous mouiller, vous.
J'irai même plus loin. Je dirais que la société se polarise, parce que certains ne comprennent pas qu'on ne fait plus de la politique comme avant. À mon avis, il faut dire la vérité aux Français qui en ont assez des manœuvres politiciennes. Il faudrait quelqu'un qui ait des propositions claires, qui aille de l'avant et qui mène une œuvre de réconciliation nationale.
C'est poignant, Alexandre. Vous comptez continuer longtemps comme ça, parce qu'on rit moins, en fait.
Non mais Richard, je ne fais que commencer. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Et je crois que je suis pas totalement fait pour rester ici à Radio Courtoisie comme simple journaliste. J'ai de grands projets.
Et en d'autres temps, je me serais réjoui de cette nouvelle. Mais je vous avoue que là, c'est pas vraiment, vraiment le moment. Alors, que voulez-vous faire?
Cher Richard, chers auditeurs, je vous annonce officiellement que je suis candidat. Oui, cela faisait depuis longtemps que j'y pensais. Tous les matins, en me brossant les dents, j'étais là, je pensais « Moi, j'ai une bonne idée d'être candidat, non ?» Et puis la réponse m'est apparue. Comme évidente, j'étais celui qu'il fallait. D'ailleurs, qui d'autre que moi, je vous le demande? Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Olivier Faure, Thomas Guénolé, l'imam Chalgoumi? Non, ils n'ont pas le profil.
Mais par tous les dieux, Alexandre, à quoi donc êtes-vous candidat?
Je vais répondre à votre question sans fioriture et sans détour, en allant droit au but, sans passer par quatre chemins ni tourner autour du pot. Car j'ai comme principe de dire la vérité simplement, toute nue, telle qu'elle est, et non pas comme certains aimeraient la travestir.
C'est beau comme du Sarkozy, mais on attend là.
Votre empressement est bien le signe que ma candidature est attendue. Oui, chers auditeurs, je suis candidat pour faire partie du peuple élu. Alors désolé si vous trouvez ça borderline. Ah pardon, je croyais qu'on disait borderline.
Non, mais vous en avez pas marre de dire absolument n'importe quoi. Vous ne voulez pas vraiment parler des municipales, de Bali Bakayoko par exemple?
Vous parlez de ce type tout noir, tout moche?
Oh, non mais vous voulez vraiment que l'Arcom nous rallie, c'est ça?
Non non mais là-dessus aucun risque. Vous voyez, je les mets un peu au défi mais c'est inattaquable. Je fais exactement comme Jean-Luc Mélenchon. Je fais des blagues. Voilà, donc je vous conseille d'écouter David Guiraud, le nouveau maire LFI de Roubaix, au micro de Benjamin Duhamel.
Oui, mais je comprends toujours pas cette nouvelle frange. J'ai posé la question hier à Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis, en lui citant notamment ce que disait Jean-Luc Mélenchon en meeting quand il parlait des malins tout blancs tout moches. La nouvelle France, c'est ça? C'est l'inverse des tout blancs tout moches?
Écoutez, moi, je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais venir parler de Roubaix, mais j'aurais dû me douter que ça serait le commentaire des petites phrases et même des petites vannes parce que là, franchement, sur celle-là. Attendez, vous croyez qu'il le disait sérieusement?
Enfin, je veux dire. Pas eu l'impression qu'il riait beaucoup quand il le disait, mais.
Oui, mais c'est vos impressions.
Voilà, Bali Bagayoko, tout noir, tout moche, je suis protégé comme Mélenchon, joker blague, j'y peux rien. Non mais, vous avez raison dans le fond. Revenons à Bali Bagayoko. En fait, je vous avoue que pour un LFI, il avait l'air plutôt d'être un brave type jusqu'à récemment. Tout à fait franchement, hein. Le gars est élégant, il parle bien, il est calme, il la joue tranquille. Moi j'étais là à me dire que bon, il pourrait s'appeler Philippe, hein, mais sinon aucun problème quoi. Donc, et puis là, ça a dérapé. Oui, alors je suis désolé, monsieur Bagayoko, mais j'ai bien peur que vous ayez perdu un soutien dans l'extrême droite française. En fait, Bali Bagayoko, il a décidé de commencer à vouloir désarmer la police à Saint-Denis. Alors, je vais vous donner mon avis sincère là-dessus. Je suis vraiment pas contre. Simplement, je pense qu'il y a peut-être 230 priorités avant. Je sais pas. Par exemple, moi, je deviens maire de Saint-Denis. Je veux bien accepter de désarmer la police. Sauf qu'avant, je commence par surarmer la police. Je leur donne tout. Bazooka, lance-flammes, napalm, drone Shahed, missile Satan, exosquelette, avion de chasse, satellite militaire. Les types, ils sont 150, mais ils ont de quoi repousser l'offensive russe à Kramatorsk. Ensuite, deuxième étape, je recrute 1500 policiers et je leur donne la même chose. Après, je traque tous les clandestins et je les mets dans ce que j'appelle la via remigratia, c'est-à-dire le chemin de la remigration en latin. En fait, c'est tout simplement la ligne 14, qui a l'immense avantage de faire Saint-Denis-Orly en direct. Alors théoriquement, il y a à peu près 250 000 clandestins dans le département, donc avec l'aide du préfet, j'organise tout ça. Théoriquement, j'ai fait le calcul, c'est faisable en 4 jours. Alors pour inciter les départs, je promets à chaque clandestin un tastic rousti dans l'avion et c'est réglé. Voilà, bon. Ensuite, une fois que c'est fait, je lance la troisième étape. La terreur. En gros, l'idée, c'est que si un type commet un délit, il y a une chance sur deux pour qu'il se prenne une munition de canon César à bout portant. Oui, alors cette audacieuse politique sécuritaire, elle se rattache à ce que j'appellerais le courant néo-boukéliste. En fait, je me suis inspiré de la situation salvadorienne, mais en prenant en compte le fait que les prisons françaises sont déjà suroccupées. C'est une sorte de boukélo-réalisme, on pourrait dire. Ce qu'on appelle également le retaillot d'armanisme inversé. Alors, pour paraphraser Jean de La Fontaine, qu'importe que vous soyez dealer ou djihadiste, mes gros chars blindés lourds vous mettront dans le corbillard. Donc voilà, je mène toute cette politique durant 5 ans, et après je fais exactement comme Bali Bagayoko, je commence à désarmer la police municipale.
Ah, je crois que vous confondez un peu maire et président des États-Unis quand même.
Non mais c'est la Silicon Valley, vous vous en rappelez pas? Et après, il y a un autre truc assez amusant à Saint-Denis. Oui, c'est Elsa Marcel. Alors, elle, c'est un concept à la fois très spécifique et très commun. Bon, elle est à révolution permanente. Alors, c'est en gros un parti trotskiste qui est à peu près tout ce qui se fait de plus à gauche sur l'échiquier politique réglo. C'est ce qu'on appelle communément, Elsa Marcel, une petite dinde diplômée, une PDD, voilà. Et elle est tellement modeste que sur son affiche de campagne, elle avait écrit en gros « Elsa Marcel, avocate ». Alors voilà, ça c'est qu'une mise en bouche, attention, la fille milite en gros pour une révolution prolétarienne, un SMIC à 2000 euros, la fin des milliardaires, l'abolition du capitalisme, un impôt sur la fortune à 99%, l'abolition de la propriété privée, la nationalisation confiscatoire de votre Clio 3. Enfin bref, une vraie de vraie, quoi. Et au cas où, chers auditeurs, vous vous posiez la question. Oui, elle a une frange, elle est un peu jolie mais elle prend pas soin d'elle, elle va à toutes les manifs pro-Palestine, elle fume, elle porte des kéfiers sur les épaules en criant « Abat le patriarcat ». Voilà. Bon, bah Elsa Marcel, ce qui est très rigolo, c'est que c'est pas exactement une prolo en fait. Oui, alors vous devez tomber des nues, hein, mais sa fortune familiale est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle a un hôtel particulier, une énorme maison de campagne, des moulins, ouais. Mais oui, parce que pourquoi pas des moulins? Voilà, donc moi je l'imagine bien garer sa petite Maserati dans un parking privé à l'entrée de la ville, dont elle est maintenant conseillère municipale, pour finir ensuite le trajet en métro pour faire prolo. Ensuite, elle jette son paquet de Vogue comme ça dans une poubelle. Elle sort son tabac Amsterdamer, elle achète une 8-6 à l'épicerie pakistanaise la plus proche, elle s'en fout un peu comme ça sur les poignets et dans le cou pour enlever l'odeur de Chanel 5. Ensuite, une petite ligne pour se remettre de la soirée de la boîte la plus chère de Paris où elle a passé la nuit avec ses copines qui bossent dans la mode ou qui bossent pas du tout d'ailleurs. Hein. Et puis hop, on demande de nationaliser le logement de la ville au conseil municipal. Non mais oh, comment ça tout le monde n'est pas encore en HLM? C'est insupportable ces inégalités.
Cette femme a l'air absolument admirable et vous avez l'air de très bien la connaître, elle et ses mœurs. J'espère qu'on aura des nouvelles d'elle dans les semaines à venir. Qu'avez-vous tiré d'autre du second tour de ces municipales?
Non, bah, faut quand même rappeler que la marche sur Nice a parfaitement fonctionné. Il Duce Eric Ciotti, accompagné de sa milice de chemise à fleurs, a conquis sans effusion la 5e ville de France. Alors qu'en face, t'avais Christian Estrosi, la Madame Claude de la politique municipale. En fait, il s'était habillé en porte-jartel et talons hauts, une Vogue au bec, en proposant ses services à la moitié de la ville. Pendant ce temps, t'avais la moitié de ses agents municipaux qui étaient déguisés en Pierre-Édouard Stérin en train d'égorger des cochons, donc c'est un peu l'Aïd version LR, devant toutes les synagogues de la ville. Et t'avais l'autre moitié des agents qui essayaient d'arrêter l'incendie qu'ils avaient déclenché en cramant toutes les preuves d'appel d'offres de ces 12 dernières années. Bon, et puis de l'autre côté, t'avais Ciotti. Ah, et le Duce, comme ça, qui est en train de jouer à la pétanque et de cuisiner des pambagna en rigolant. Je pense qu'il y a vraiment un film à sortir, d'ailleurs, ce serait l'histoire tragique d'une vieille catin qui se fait remplacer par une jeune bombe toute naïve, souriante, qu'elle avait embauchée deux semaines plus tôt. En fait, Ciotti, sa méthode de campagne, c'est un peu Kraft Durotschofraud, la force par la joie. Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est un bon slogan, ça. Vous en pensez quoi, Richard?
Je pense qu'il a déjà été un peu préempté, en fait. Voilà, je vous arrangerai cette histoire une autre fois, hein, mais disons que je reste sceptique. Changez de sujet, là.
Oui, bah alors on l'a perdu. Je sais pas où il est passé. J'étais sûr de l'avoir laissé sur ma commode avant de partir. Là, je vous avoue que je suis complètement perdu. J'ai aucune idée d'où j'ai pu le mettre.
Ce sujet, je ne sais pas moi.
Mais alors forcément, j'ai fait la procédure habituelle. Enfin, j'ai essayé de me rappeler de la dernière fois où j'avais vu. J'ai refait le chemin dans ma tête. Ensuite, j'ai essayé de me rappeler d'où j'aurais pu le mettre. Et alors, j'ai fouillé tout mon appartement. Mon parcours pour aller au travail, mais il n'était pas sous l'abribus, ni par terre au niveau de porte d'Auteuil, ni même au bureau. Donc la seule option que je vois, c'est qu'on l'ait volé, mais je suis dégoûté parce que, franchement, à force, je m'y étais attaché quand même. Hein.
Par pitié, Alexandre, arrêtez avec vos mystères lannois, mais de quoi parlez-vous ?
Mais Sébastien Lecornu ? Enfin, pardon, mais je pense qu'il est au même endroit que Jed Evans, le cadavre de Ben Laden, les résultats de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur et l'honneur de Xavier Bertrand. Honnêtement, vous l'avez vu depuis janvier, vous ? Je sais pas à quoi il joue, mais ça commence un peu à faire peur. Hein. Si même quand on a un Premier ministre, on n'a pas de Premier ministre parce qu'il disparaît. Alors, peut-être qu'il a posé tous ses congés d'un coup et qu'il compte bosser pendant les vacances d'été, pendant que tout le monde sera à la mer, mais honnêtement, j'en suis pas sûr. Non. Je pense que c'est quand même plus grave que ça, quoi.
Il est parti avec Raphaël Arnaud ?
Mais même pas, à mon avis, il a dû se perdre dans toutes ses compromissions. Avance de tracter avec LR, le PS, changer le barrage républicain dans un sens, puis dans l'autre, toutes les deux semaines, à devoir négocier avec le modem de Bayrou, Renaissance de Gabriel Attal, Horizon d'Edouard Philippe, il a dû partir en courant, prendre peur pour fuir ses ex toxiques, là. Donc, je me permets de lancer un appel. Si jamais vous êtes dans le coin de Vernon, dans l'Eure, et que vous croisez un demi-chauve à l'air austère, voire carrément ennuyeux, qui répète en boucle des numéros d'amendement, eh bien nous vous invitons à contacter la police ou à le ramener directement à Matignon.
Merci beaucoup, Alexandre. Et
ligne droite,
nous allons avoir l'analyse avec Xavier Aimant. Bonjour, Xavier Aimant.
Bonjour.
Vous êtes en train de vous diriger lentement vers votre place. Voilà. Un peu comme un logiciel de la police nationale qui s'élabore avec elle aussi une sage lenteur. Alors, on s'était dit que vous alliez nous parler des municipales car vous êtes un fan observateur de la comédie humaine.
Ben disons que cette semaine, c'était assez difficile d'échapper hein, aux élections municipales et à leur analyse. Il y a eu déjà beaucoup de réflexions, de commentaires qui ont été faits sur le sujet. Certains tout à fait pertinents et passionnants, notamment sur cette antenne, bien évidemment.
Merci.
Donc je voulais, pour ma part, ce vendredi, plutôt me pencher sur ces élections, mais par le petit bout de la lorgnette, et évoquer quelques anecdotes pas toujours aussi insignifiantes qu'il n'y paraît. Alors commençons par le, si vous voulez bien, par le plus léger. Alors tout le monde, ou presque, je crois, a suivi le combat au sommet, combat titanesque, à Arcy-sur-Aube, entre Hitler et Zelensky.
Et oui.
Et oui, et plus exactement, entre Charles Hitler, le maire sortant, et son concurrent Antoine Zelensky. Alors c'est finalement le premier qui s'est imposé lors d'une triangulaire avec 40,59% des voix, malgré le soutien apporté à son principal opposant, donc Zelensky, par le parti de Florian Philippot. Alors, bon, on n'est pas forcé de partager les opinions politiques de Charles Hitler, mais on peut néanmoins se réjouir, je pense, de bon cœur de ce résultat, parce que ce pauvre homme, il a quand même dû avoir des moments difficiles dans son enfance et dans sa jeunesse avec un tel patronyme.
Mais oui, Hitler avec deux T, et je suis persuadé que ce n'était pas suffisant pour empêcher les quolibets.
Ah non, il s'est même plaint d'une campagne très difficile, où notamment ses affiches de campagne étaient décorées, comme on peut l'imaginer, de franges et de petites moustaches. Alors, les élections municipales 2026 nous auront également appris que la corruption volaillère ne paye pas. Alors, en effet, à La Courneuve, donc en Seine-Saint-Denis, Oumarou Doucouré, qui était le candidat du Parti Socialiste, a été sèchement battu par Ali Dioura, tête de liste LFI. Or, le candidat socialiste était accusé d'avoir tenté d'acheter des voix en organisant des distributions de morceaux de poulet dans la cité des 4000. Alors là, cette générosité alimentaire, flattant les goûts gastronomiques de la population locale, n'a cependant pas suffi pour remporter l'élection. Et la suite de cette passionnante affaire se déroulera au tribunal, puisque M. Doucouré a porté plainte en diffamation contre le nouveau maire. Alors au niveau des anecdotes, sinon on pourrait également noter que le plus jeune maire élu est âgé de 19 ans. Il s'agit de Yann Traiteur, étudiant en deuxième année de licence de sciences politiques à l'université de Haute-Alsace. Il a été élu maire de Nomé, une commune de près de 2000 habitants, dès le premier tour, avec seulement 5 voix d'avance. Il devient ainsi le premier maire Rassemblement National des Vosges. Donc bravo à lui, comme quoi le talent et le succès n'attendent pas le nombre des années. Quant au plus vieil élu, à l'inverse, c'est un certain Guy Delattre, 94 ans, quand même, c'est respectable, maire indépendant de Gorges, dans la Somme, commune plus modeste de 43 habitants. Il a été élu pour la première fois en 1971 et entame donc son 10e mandat, après avoir été réélu à 100% des voix au premier tour.
Triomphalement.
Voilà, comme quoi la politique locale, en tout cas, cela conserve. Alors, beaucoup moins léger, malheureusement, et moins amusant sont les innombrables heurts et incidents qui ont émaillé ces élections, et notamment les passations de pouvoir entre sortants battus et nouveaux arrivants triomphants, généralement issus de la diversité et sous étiquette LFI. Alors, plusieurs maires ont ainsi dû quitter leurs fonctions sous les huées, les crachats, les injures, parfois même sous escorte policière, pour éviter un véritable lynchage. Alors, bien sûr, il s'agit souvent d'élus de gauche, qui ont largement contribué, hélas, à semer ce qu'ils récoltent aujourd'hui, en favorisant notamment, par idéologie ou par clientélisme, l'immigration et le communautarisme. Les voir de ce fait ainsi à leur tour grand remplacés pourraient donc apparaître comme, finalement, un juste destin. Mais ces scènes de violence, d'hystérie clanique et de hargne idéologique n'en sont pas moins particulièrement inquiétantes, tant elles sont révélatrices du délabrement avancé de notre pauvre démocratie et du fractionnement radical de notre société. Voilà donc où nous aurons mené des dizaines d'années de propagande vivre-ensembliste, de prêchi-prêcha multiculturel et de pseudo-antiracisme. Formidable réussite, vous l'admettrez avec moi.
Bien sûr.
Jamais les clivages politiques sur lesquels se greffent aujourd'hui les appartenances ethnico-culturelles n'ont été aussi marqués et aussi violents. Leur France plurielle, finalement, c'est la France du chaos. Alors pour qualifier cette communautarisation et cette archépilisation de plus en plus radicale du pays, cette opposition toujours plus forte entre la ruralité d'un côté et les grandes villes et leurs banlieues de l'autre, de nombreux commentateurs ont parlé d'une prétendue « nouvelle France », qui s'opposerait désormais frontalement à une ancienne ou vieille France. Alors c'est à mon sens une dichotomie tout à fait fallacieuse et une sémantique mensongère. Tout d'abord parce que l'expression « nouvelle France » a une connotation plutôt positive, novatrice, régénératrice, presque. Il y aurait une nouvelle France, comme il y a une nouvelle saison de votre série Netflix préférée, ou une nouvelle collection vestimentaire remplaçant celle ringarde et dépassée de l'année dernière. Qui aujourd'hui, en effet, oserait s'opposer à la nouveauté et à l'innovation? Il faut bien vivre avec son temps, et l'ancien doit naturellement être remplacé par le nouveau. Or, ce qu'incarne LFI et son électorat, ce n'est nullement une nouvelle France. C'est une anti-France. La négation de ce qu'a été, et encore, Dieu merci largement, la France, la négation de son histoire, de sa culture et de son identité. Ce qui se dessine derrière les victoires des prétendus insoumis, c'est une nouvelle entité. Une terre peuplée d'une mosaïque de populations, développant d'autres mœurs, d'autres coutumes. C'est quelque chose d'autre. Une autre chose que certains peuvent souhaiter. Mais en tout cas, ce n'est pas la France. Il suffit pour s'en convaincre de réécouter ou de relire, c'est un peu pénible mais il ne faut pas hésiter à le faire, les discours de Jean-Luc Mélenchon, qui suinte de haine et de mépris pour le peuple historique français, composé de blancs tout moches et de paysans alcooliques et arriérés. Alors si vous le voulez bien, ne faisons pas de cadeau à l'adversaire en reprenant son vocabulaire. N'utilisons pas cette expression fallacieuse et mensongère de « nouvelle France ». Rappelons plutôt qu'il n'y a qu'une seule France et que la véritable et unique nouvelle France, c'est le Québec.
Exactement, c'est le Québec. Mais et ça nous avait tous, frappé quand LFI a grand remplacé là aussi ce terme Nouvelle France et a fait en sorte de le bouffer. C'est assez intéressant de dire, LFI parle de créolisation, LFI parle de Nouvelle France. En fait, LFI recycle tout le passé qu'elle abomine en faisant en sorte d'arracher aux mots leur signification.
Oui, et ça fonctionne très bien puisque ça a été quand même très largement repris par les médias. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours une victoire politique quand on impose dans le débat son vocabulaire et ses terminologies. Et là, un cas tout à fait frappant, puisque même les gens, même pour critiquer cette émergence d'une nouvelle France, on reprend cette expression qui, en effet, à mon avis, est tout à fait déplacée et tout à fait fausse. Mais vraiment, c'est un combat, je pense, qui est très important, le combat des mots. On a parfois tendance à l'oublier. On a vu, par exemple, la façon dont le terme fasciste a été totalement dévoyé de son sens premier et a été recyclé à toutes les sauces, vidé de tout contenu idéologique pour devenir une injure qui, finalement, ramène toujours, à tort ou à raison, à l'idée que c'est... ça vient de la droite. C'est-à-dire qu'en fait, les gens de gauche ne sont jamais coupables quand ils deviennent antisémites, quand ils deviennent ou supposément antisémites, ou quand ils ont des positions trop radicales, ils deviennent subitement fascistes. Donc finalement, il bascule du côté, entre guillemets, de la droite, si tant est que le fascisme soit une idéologie de droite, d'ailleurs. Mais c'est un autre débat.
Oui, mais donc, on peut le trancher tout de suite. Le fascisme est une idéologie de gauche.
Donc, en partie, en tout cas, de gauche. Mais toujours est-il qu'en effet, ce combat des mots, il me paraît très important. Et c'est pour ça que je voulais souligner cet aspect des choses.
Vous avez souligné les scènes de violence qui sont, enfin de violence symbolique en tout cas, avec ces mères qui descendent d'un pas lourd et fatigué les escaliers pendant que des gens les moquent, les vilipendent, les abreuvent de quolibets. Et alors, on avait, même nous, on avait du mal parce que c'était de bons gauchistes PS, de bons gauchistes
oui,
communistes. Les communistes et les PS qui se font accabler de quolibets, c'est quand LFI gagne, parce que dans les villes communistes qui sont passées au Rassemblement National, comme par exemple Vierzon, les militants du Rassemblement National n'ont pas éprouvé le besoin d'abreuver de méchanceté ceux qui sont partis, tout s'est très bien passé. C'est amusant, les gens le soulignent assez peu, en fait. Il y a un arc républicain qui inclut le Rassemblement National et qui visiblement n'inclut pas LFI quand il s'agit de politesse électorale. Dans ces villes passées de la lumière aux ténèbres, dans ces villes où resplendissait le soleil rouge du communisme et où maintenant, au contraire, l'astre noir du Rassemblement National s'est levé, comme à Vierzon, les gens sont assis, les gens sont frappés. On explique qu'un bastion communiste comme Vierzon qui passe à droite, c'est forcément le signal de déprédation, de violence, d'une faillite. Alors, ce qui est toujours assez amusant, c'est... par exemple, le Zouzou Bar a été tagué à Vierzon.
Vous me l'apprenez.
Ça fait les gros titres. On sait qu'il se passe plein de trucs pas corrects en Seine-Saint-Denis, mais ça fait pas les gros titres de France 3. En revanche, voilà, le Zouzou Bar a été tagué. Alors, il paraît que ce serait en raison de l'orientation sexuelle des patrons du Zouzou Bar. Donc, qui n'est pas précisé dans l'article, mais bon, dont on
que
peut,
l'on peine à imaginer,
on peut peut-être inférer que si je suis patron de bar et que ça s'appelle le Zouzou Bar, il doit y avoir quelque chose qui ne doit pas violemment, d'ailleurs, déplaire, sinon aux électeurs du Rassemblement National, du moins aux députés du RN.
A priori.
Voilà, donc. Et aussi, le patron du club de foot de Vierzon a démissionné en expliquant que voilà, ses convictions l'empêchaient de collaborer avec
le Rassemblement National. À la limite, c'est relativement digne, hein, je peux l'entendre. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'au lendemain de ces élections, quand la presse ou les médias vont dans ces villes qui sont tombées dans l'escarcelle du RN, il ne trouve plus un électeur du Rassemblement National qui vient quand même de gagner les élections, mais il n'interroge que des gens qui sont accablés. Je lisais des choses, ce matin je me suis levé, j'avais envie de vomir, alors bon, faut prendre un Smecta ou quelque chose. Mais on n'interroge que les gens qui n'ont pas voté pour le parti. Donc c'est quand même une façon de présenter les choses un peu biaisée. Alors après, moi je souhaite bien du courage à ces nouveaux maires, parce qu'ils vont récupérer quand même des situations en général assez difficiles et assez complexes. Et comme il y a beaucoup d'attentes, justement, dans une sorte de renouveau, il va falloir qu'il travaille d'arrache-pied et qu'il ne se loupe pas, parce que sinon, on va évidemment avoir l'impression que, c'était pas la peine de tenter ce pari, parce que c'est vrai que souvent, quand il y a un basculement du côté du RN, c'est parce que la situation locale est quand même assez difficile, que ce soit en termes économiques, en termes migratoires, en termes de sécurité. Donc les chantiers sont quand même importants, sachant que les maires n'ont pas tous les pouvoirs, et notamment en matière d'immigration, de police, c'est quand même assez limité, même s'ils peuvent faire des choses, heureusement. Donc on va les attendre, évidemment, on va les attendre au tournant, on va les regarder beaucoup plus attentivement que beaucoup d'autres mairies. Donc j'espère qu'ils seront à la hauteur de cette confiance que leur font de plus en plus massivement les Français.
Alors les Français leur font confiance, mais on sent bien justement que toute la technostructure, elle, est prête à les bouffer. Donc le président du club de Vierzon démissionne. Alors, évidemment, vous avez raison de le souligner. Voilà, ce sont ses convictions. En même temps, on ne voit pas bien pourquoi les joueurs de foot auraient besoin d'être tous communistes ou qu'il faudrait être communiste pour gérer le club de foot de Vierzon. Mais il y a une autre réaction qui m'a absolument fasciné. C'est par exemple Renaud Muselier qui explique que dans le pays niçois, nous avions un projet soutenu par le Comité international olympique, le COJOP et les fédérations internationales. Et donc que l'élection de M. Ciotti Ciotti fait qu'il y a un problème maintenant avec les équipements prévus pour les Jeux Olympiques de 2030. Donc on a l'impression que le simple fait qu'une ville bascule du mauvais côté, selon le cercle de la raison qui nous gouverne, fait que tout doit être remis en cause et que, évidemment, aucun projet n'échappe à un filtre politique. Et je trouve que ça, c'est une véritable révélation, c'est un grand dévoilement. Les gens sont en train de nous expliquer, en fait, que tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant était purement idéologique, était purement politique. C'était toujours présenté sous l'angle du bien commun, de l'intérêt général, du bien du territoire. Enfin, ces gens étaient purement désincarnés. Ils étaient, et Renaud Muselier l'est encore, ce sont évidemment tous les Provençaux, tous les Pacanoutes qui sont censés être rangés sous la double égide de ces ailes gentillettes. Eh bien, pas du tout. En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du bon clan, brusquement, on nous explique que tous les investissements décidés étaient en fait purement opportunistes.
Oui, alors, d'une part...
Enfin, on ne nous l'explique pas, mais on le comprend.
D'une part, ça prouve quand même que, justement, le Rassemblement National n'est pas encore complètement intégré à ce fameux arc républicain dont vous parliez tout à l'heure, et que la dédiabolisation n'a pas suffi à le faire encore considérer comme un parti comme les autres. Alors Dieu sait pourtant que les efforts ont été faits, même plus que de raison, à mon sens, dans ce sens-là.
Voilà, Vierzon, il s'est fait élire avec une alliance de la droite qui va du MoDem au RN. Quoi.
Mais on voit que le système n'est pas encore prêt à accepter de considérer le Rassemblement National comme un partenaire, comme un autre. C'est d'ailleurs peut-être assez inquiétant pour les prochaines échéances. C'est-à-dire que les gens qui pensaient que le barrage républicain, que le front antifasciste était fini et que maintenant on allait pouvoir avoir justement cette fameuse union des droites qui fait tant fantasmer, je pense que ces élections quand même refroidissent un peu les ardeurs. Et moi, je ne serais pas étonné du tout qu'en cas de second tour avec Jordan Bardella face à n'importe qui et même face à Jean-Luc Mélenchon, on nous rejoue en effet le théâtre antifasciste, comme disait Lionel Jospin, et que la droite participe à ce blocage, en tout cas une grande partie de la droite, puisqu'elle a encore cette fois-ci refusé toute forme d'alliance au niveau national et même local. Elle n'a pas hésité même à maintenir des candidats dans des triangulaires au risque de faire passer des socialistes ou même des communistes. Donc on voit que quand même le logiciel n'a pas encore changé et n'a pas basculé et ne basculera sans doute pas, puisqu'on peut pas demander au RN de faire plus en matière de normalisation et de diabolisation que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc oui, le RN reste quand même isolé et comprend qu'en fait, l'élection, finalement, c'est pas une finalité. Parce que derrière l'élection, il y a la mise en place d'une politique. Et cette mise en place d'une politique, qu'elle soit locale ou nationale, il faut avoir les moyens de la faire. Et donc, si vous avez tout, en effet, la technostructure contre vous, si vous avez, si les subventions, si on vous fait en fait des chantages, notamment aux subventions, si les artistes refusent de se représenter dans votre commune, etc., etc., ça peut évidemment être problématique. Donc, c'est encore une fois la tâche des élus RN, elle est loin d'être facile, et ils vont comprendre en fait qu'ils sont encore considérés comme les diables de la République et qu'ils croyaient avoir, je pense, passé le mistigri à LFI, mais on voit très bien que la gauche a beaucoup plus de facilité à s'entendre avec LFI malgré tous les grands discours et les grandes déclarations que la droite ne le fait avec le RN, alors que le RN est beaucoup plus, on va dire, soft et beaucoup plus présentable que LFI à l'heure actuelle, et beaucoup moins radical en tout cas.
Alors, il y a une autre mutation qui est peut-être en train de se dessiner dans le discours du Rassemblement National à la faveur de ces élections, c'est bien sûr cette union des droites qui est à la fois le souhait visiblement de beaucoup de militants de base, qu'il s'agisse du RN, des LR, de l'UDR, etc. Donc c'est systématiquement plus de 50%, parfois les deux tiers, même parfois les trois quarts des gens de ces partis qui appellent à l'union des droites, et évidemment la manière dont les états-majors politiques, qu'il s'agisse du RN, des LR ou de l'UDR, sont eux plus frileux dans la manière d'appeler à cette union des droites, même si beaucoup de listes ont en fait été des listes d'union de partis constitués, sauf qu'elles n'ont affiché aucune préférence partisane.
Ce qui fait que. Mise en avant, oui.
Ouais, ça a permis aux uns et aux autres de se voiler pudiquement les yeux sur cette union des droites qui était en train de se réaliser à la base. Quand on écoute Jordan Bardella dire que les LR sont devenus la succursale du macronisme, quand on entend l'un des candidats déçus, M. Sanchez, dire que les LR auraient dû voter pour lui, on a le sentiment, malgré tout, que le ni droite ni gauche du Rassemblement national a un peu de plomb dans l'aile.
Oui, certainement. Bah, après, je pense qu'il y a une tension interne au RN, justement, entre deux stratégies. En caricaturant un peu, on pourrait dire celle de Jordan Bardella et celle de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est plus, en effet, sur le maintien de cette ligne ni droite ni gauche, populiste. Et Jordan Bardella plus sur l'union de la droite et une forme de d'appel du pied plus libéral, notamment vis-à-vis des classes plus dirigeantes, du patronat, etc., etc. Et je pense qu'ils n'ont pas encore résolu, ils n'ont pas encore choisi la stratégie qui sera la plus payante. Est-ce qu'il faut, en effet, maintenant le RN est en situation quasiment hégémonique sur la droite, est-ce qu'il faut finir d'essayer de tuer LR qui est quand même mal en point? Et où est-ce qu'on va essayer de négocier avec ce qu'il en reste et donc en adaptant un peu le discours? Ça va être, je pense, une des vraies questions en vue des présidentielles. Parce que, en effet, il semble qu'il y ait beaucoup de militants qui soient favorables à l'union des droites, mais est-ce que c'est le cas des électeurs? Et ça, c'est peut-être plus discutable parce que il me semble que dans l'électorat du Rassemblement national, et là, je pense que Marine Le Pen a raison, il y a beaucoup de gens qui ne se considèrent pas comme de droite et qui voient justement la droite libérale républicaine d'un très mauvais œil. Et à mon avis, à très juste titre, quand on connaît son bilan...
Exactement, quand on voit ce que les LR ont réussi à faire, et avant eux,
son bilan, donc,
l'UMP et le RPR...
Voilà, et donc, est-ce qu'il y a plus à gagner en récupérant les restes du LR ou en essayant de maintenir cette ligne populiste? Moi, je suis plutôt favorable à cette ligne, justement, populiste. Enfin, mon avis n'a pas une grande influence sur la stratégie du Rassemblement national.
Mais pas du tout, je suis certain qu'en ce moment, ils nous écoutent tous.
Mais c'est vraiment, je pense, un débat qu'il va falloir trancher, parce que notamment sur les questions économiques, à un moment, il faudra être un peu plus clair que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est le reproche quand même récurrent qu'on fait au Rassemblement national, d'essayer de ménager un peu la chèvre et le chou, de pas avoir un programme économique extrêmement cohérent. Quand on regarde, en effet, encore une fois, les résultats de ceux qui sont censés être des champions dans ce domaine, on se dit que de toute façon, ils ne pourront pas faire pire. Mais oui, ça va être certainement une question à trancher pour le RN. Mais je pense que si le Rassemblement national veut représenter une véritable alternance radicale, peut-être pas, mais en tout cas forte, lors des élections présidentielles, il vaut mieux qu'elle maintienne une ligne populiste un peu dégagiste en disant, voilà, nous, on n'a jamais été au pouvoir, on n'a pas collaboré à tout ce système qui a mené la France au bord du gouffre. C'est pas pour récupérer les bribes de tous ces gens qui sont les naufrageurs de notre pays à la dernière minute pour essayer de gagner une élection. Il faut encore, je pense, incarner une forme de rupture.
Et c'est intéressant parce que cette rupture, c'est à la fois la volonté de ne pas reprendre le personnel, mais malgré tout, ça pourrait être aussi cette volonté d'alliance. C'est-à-dire, on peut très bien, effectivement, ne pas récupérer les vieux barons des LR et donc faire en sorte de renvoyer tous ceux qui ont continuellement pactisé avec la Macronie et auparavant avec les socialistes, etc. On se souvient de cet excellent acronyme l'UMPS. Et on peut très bien donc balayer ce parti politique-là et ses débris, mais on n'est pas obligé pour autant de considérer que seule une position populiste pourrait gagner. C'est-à-dire, si les électeurs du Rassemblement national ne sont pas tous à droite, et je trouve que la victoire d'une ville comme Vierzon prouve bien qu'en fait, il y a d'abord une culture communiste, il y a d'abord un ancrage communiste, et après, il y a des déceptions liées à la gestion communiste de la ville, et sans doute aussi à deux ou trois inquiétudes identitaires, bien mais sûr, qui ne font pas pour autant que tous ces gens deviennent brusquement de droite. C'est pas parce qu'on a le sentiment d'être français qu'on devient fasciste. On peut très bien être de gauche et français, de nombreux souverainistes de gauche nous le montrent. Donc, c'est une chose que de ne pas vouloir reprendre le personnel, mais c'est une autre que de dire il y a malgré tout des thèmes communs à la droite et que justement ce thème de l'identité française, ce thème de l'immigration qui est un danger, dont même François Bayrou se faisait l'écho, sont des thèmes qui restent malgré tout des thèmes de droite plus que des thèmes de gauche qui continuent à matraquer à l'IFI, la Nouvelle France et la créolisation, et au PS, le fait que, bien sûr, l'ouverture à l'autre est une absolue nécessité.
Oui, vous avez raison. Après, je pense que l'UDR a ce rôle-là. Aujourd'hui, le rôle de récupération de l'électorat de droite comme appendice du Rassemblement national, et je pense que c'est à lui de faire ce travail en essayant en effet de finir de vider LR de ses forces vives, si tant est qu'il en reste encore, mais il me semble que le cas de Vierzon est assez significatif. Je pense que la majorité des Français ont une double inquiétude, c'est une inquiétude identitaire et une inquiétude sociale, c'est-à-dire ils se sentent menacés à juste titre par l'immigration de masse et ce qu'il faut appeler le grand remplacement, mais ils sont aussi inquiets par la précarisation sociale, la mondialisation économique extrêmement violente, la désindustrialisation, le chômage, etc. Il faut répondre à ces deux inquiétudes. Or, il me semble que la droite, vous dites la droite est contre l'immigration, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. La droite a un discours sur l'immigration qui est très ambigu. Elle veut limiter l'immigration clandestine, etc. Mais en fait, ce qu'elle veut fondamentalement, c'est remplacer une immigration subie par une immigration choisie pour répondre à des exigences économiques. Le MEDEF est très clair là-dessus. Il dit qu'il faut tant de millions d'immigrés pour, si on veut maintenir notre niveau de vie, notre système économique et social tel qu'il est. Donc je ne suis pas aussi certain que vous qu'à la droite soit fondamentalement contre l'immigration. Elle est pour une immigration différente. La gauche est pro-immigration pour des raisons idéologiques essentiellement, et la droite, en tout cas cette droite libérale, elle est pour l'immigration pour des raisons économiques. Et il nous explique qu'on a besoin d'immigration. J'ai rarement entendu des gens de LR dire il faut stopper complètement l'immigration, l'immigration est une catastrophe. Non, c'est il faut punir les voyous, il faut mieux choisir, mais par contre dans les métiers en tension, etc., il faut faire venir des gens pour être dans nos restaurants, ça a l'air de déranger personne à droite. Donc pour moi c'est pas aussi clair que ça. Et donc justement faire un front populiste à la fois social et identitaire, sans étiquette, entre guillemets, de droite ou de gauche, me paraît très porteur pour l'avenir, parce que ce sont, à mon sens, les deux questions fondamentales qui préoccupent nos compatriotes.
Alors, bon, on a fait le tour de deux ou trois villes. Quelle est la victoire qui vous paraît la plus surprenante? Est-ce que c'est ce maire et les filles dans la Seine-Saint-Denis? Est-ce que c'est le fait que la Seyne-sur-Mer soit passée au Rassemblement national? Est-ce qu'au contraire, justement, c'est ce jeune garçon qui gagne à 5 voix près une commune de 2000 habitants à 19 ans Est-ce qu'à chaque fois, c'est la force de l'étiquette qui a prévalu, ou au contraire, est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a des véritables personnalités qui ont émergé?
Alors, je pense que l'étiquette, surtout Rassemblement National, joue beaucoup, même si on a vu des gens, on va dire, proches de la mouvance nationale se faire lire plutôt sous des étiquettes divers droite ou sans étiquette. L'élection, pas du tout la plus surprenante, mais la plus symbolique, c'est quand même celle de Saint-Denis, je pense. Là, on a quand même une image très très forte, symboliquement, le tombeau des rois, le changement de population qui crève les yeux. Je veux dire, c'est plus possible de le nier. L'ardeur idéologique de ce nouveau maire qui, dès le lendemain, a commencé à expliquer qu'il allait désarmer la police, enlever les caméras de vidéosurveillance et puis quasiment virer tous les employés municipaux qui partageaient pas l'idéal LFiste. Ça, symboliquement, je trouve ça très très fort et très 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 inquiétant, parce que on a l'impression que c'est le premier bastion d'une série de villes grands remplacés qui vont tomber les unes après les autres sous la pression simplement migratoire et démographique.
Rappelons que ce maire s'est fait élire avec en fait 10% des habitants de la commune.
Oui, Après, ça, c'est les... Oui, c'est bien sûr.
Non, mais voilà, de toute façon... Il faut toujours remettre la démocratie en face de ses responsabilités.
Oui, bien sûr. Mais après, moi, vraiment, c'est des images qui m'ont profondément marqué durant ces élections. Et je pense qu'elles ont marqué beaucoup de Français. J'espère que ce sera quand même un signal d'alarme pour beaucoup.
Donc, ce sommaire est un signal d'alarme et voilà, il y a de l'autre côté ces bonnes nouvelles, enfin pour ceux qui pensent que une élection du Rassemblement national peut être une bonne nouvelle d'un ancrage territorial qui faisait
défaut au parti.
Donc, 3000 conseillers municipaux.
Peut-être à nouveau sénateur du côté
de la Provence, enfin Provence-Alpes-Côte d'Azur comme on dit aujourd'hui. Ce sont de bonnes nouvelles. Et il nous reste quelques secondes. Je tiens à dire à tous les auditeurs de Radio Courtoisie que Xavier Aymon, non seulement nous fait plaisir en venant toutes les deux semaines nous livrer ses analyses remarquables, mais qu'en plus, c'est un très bon écrivain et qu'en tant qu'écrivain, il écrit dans plusieurs revues et qu'il nous donne la joie de réunir toutes ses chroniques et ses articles dans Une fin du monde sans importance, voilà, qui est exactement l'humour qu'on apprécie chez lui, aux éditions de la Nouvelle Librairie, au prix de 14,90€, auquel je suis cher, puisque c'est le prix de mes propres ouvrages. Voilà. Merci beaucoup Xavier Aymon, et j'espère que vous reviendrez nous parler de ce livre-là à l'antenne de Radio Courtoisie. Et maintenant, nous allons apprendre un peu de courtoisie avec Jérémy Combe.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors là, on va rentrer dans des situations du quotidien qui effectivement peuvent être embarrassantes, comme comment faire pour se moucher ?
Eh bien c'est une bonne question. Alors là, je crois que je pourrais en parler pendant des heures. Je suis heureux. Et oui, cher Richard, d'évoquer ce que l'on peut ou ne doit pas faire le temps de cette chronique. Avant de parler de se moucher, arrêtons-nous simplement sur la toux. Lorsque l'on se trouve à table, on essaie de la masquer au maximum. Et si ça devient impossible, alors vous vous lèverez discrètement en vous excusant et on revient tout aussi discrètement à table lorsque c'est réglé. On n'en fait pas une affaire. Si vous devez vous moucher, faites-le le plus discrètement possible en vous détournant. Et c'est vraiment si vous ne pouvez pas faire autrement. Je voudrais rappeler que le mouchoir est un objet personnel qui se plie dans une poche ou se range dans un sac et qui ne se prête pas à moins qu'il ne soit propre. Ne riez pas, Richard, car quand on a tous été témoins d'un prenne-mouchoir, on peut le raconter. S'il s'agit d'un mouchoir en papier, il se jette après usage. S'il est en tissu, il se change et se lave souvent. Le geste de prendre son mouchoir doit se faire discrètement. On n'exhibe pas un grand mouchoir tel une serviette de table sous le nez de son voisin et on détourne la tête pour se moucher en évitant les bruits de clarinette. Et merci de ne pas le laisser traîner sur une table.
Alors, il y a aussi une autre situation délicate dans laquelle on se sent toujours jugé, lorsqu'on bâille.
Ah oui.
Comment gérer cet égarement ?
Ah oui, c'est un égarement. C'est drôle, effectivement, surtout lorsque l'on sait que le bâillement est un comportement universel et involontaire qui entraîne l'étirement et la contraction de toute une série de muscles. On n'y peut rien. Pour autant, les personnes qui sont avec vous pensent que vous vous ennuyez. Alors évidemment, on met la main devant sa bouche, on n'expose pas le fond de sa gorge comme si c'était une exposition universelle. Jamais on ne découvre son intimité. Vous savez, c'est pour ça qu'on doit rester le plus souvent la bouche fermée. Donc il faut être assez vigilant.
Et pour terminer, je sais que vous voulez parler de l'éternuement.
Oui, alors là c'est vrai, je vous en supplie, lorsque vous éternuez, tentez de ne pas hurler. Il faut tout minimiser au maximum. Et puis vous savez bien qu'on ne dit jamais à vos souhaits dans un salon ou à des amis parce qu'on ne met jamais la maladie de l'autre en évidence. C'est si la personne qui éternue vous demande de l'excuser, là vous lui répondrez « je vous en prie » ou « je t'en prie ».
Parfait. Eh bien merci Jérémy Combe.
Merci à vous.
Ligne droite, la revue de presse.
Et la revue de presse se fait normalement avec notre partenaire, Tuc Dual, Denis, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui, hélas, n'est pas là ce matin. Ça nous fera plus de temps pour la zone libre. Et donc, pendant que les gens de Ligne Droite sont en train de se réunir, eh bien, nous allons, mais néanmoins, parler, évidemment, de ce numéro. Voilà, ça s'appelle Les Affranchis, avec David Lisnard et Robert Ménard.
Voilà, alors que Les Affranchis, moi je me souviens, c'était un excellent film de Scorsese sur la mafia. Mais donc là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la manière dont le Rassemblement National va gagner, dont le LFI va gagner, dont tout le monde gagne en fait. Et justement, dans ce dossier, on revient sur les fausses victoires et les vrais enseignements, c'est-à-dire la manière dont il y a des leçons politiques à tirer qui ne sont pas systématiquement celles que les états-majors politiques ont tirées. Et évidemment, d'aller chercher Robert Ménard et David Lisnard, voilà, francs-tireurs, en rupture avec la droite classique, en rupture avec la droite institutionnelle. C'est une idée intelligente, avec bien sûr aussi la manière de nous parler de succès d'enracinement locaux. Voilà, Cannes et Béziers, ce sont des mairies qui sont tombées tout de suite du bon côté, voilà, où il n'y a pas eu un effet antifasciste absolument atroce. Au contraire, ça a très bien fonctionné. Il y a aussi un autre article intéressant dans ce... Enfin, il y en a plusieurs, je le dis à chaque fois. C'est la manière dont on revient sur un autre fiasco étatique, politico-étatique. C'est la manière dont cette taxe sur les petits colis, dont on nous avait annoncé qu'elle allait permettre de mettre Chine à genoux, a évidemment abouti à une seule chose. Les colis de Chine continuent à rentrer dans le gouvernement, sur le territoire français. On a un aéroport français qui, lui, est complètement ruiné. Bonjour, Tuc Dual-Denis.
Bonjour Richard.
Voilà, j'ai un peu meublé en défraîchissant. Tout ce que vous auriez pu dire. Mais c'est vrai que la chronique de Jérémy Combe était exceptionnellement courte. Voilà. Donc vous nous parlez des Affranchis, ou plutôt vous faites parler David Lisnard et Robert Ménard.
Oui, écoutez, bien malin qui peut tirer une leçon des municipales, ou en tout cas un parti qui pourrait dire qu'il en est le vainqueur. Ces élections municipales, elles nous ont offert quoi ? Elles nous ont offert le spectacle d'un émiettement, je dirais presque une décomposition de la vie politique. Elle ressemblait à s'y méprendre à la situation qu'on connaît, c'est-à-dire des partis très faibles, c'est-à-dire des votes extrêmement polarisés, des unions qui vont dans le mauvais sens, et que donc on n'avait pas envie de mettre en avant un parti ou une force politique, mais en revanche, David Lisnard et Robert Ménard, eux, sont des affranchis, effectivement, comme on le titre. Alors, affranchis, évidemment, idéologiquement, parce qu'ils ont une parole très libre, ils sont anticonformistes. Robert Ménard, vous connaissez sa communication et les mesures qu'il a prises dans sa ville, qui sont censées être des mesures qui sont impopulaires et dont on voit bien, si on écoute en tout cas un peu la doxa, et dont on voit bien au contraire qu'elles ont eu beaucoup de succès auprès des habitants, y compris d'ailleurs des habitants d'origine immigrée, y compris des habitants dont on n'imaginerait pas spontanément qu'ils votent pour un maire comme celui-là. Et quant à David Lisnard, des recettes bien tranchées effectivement, et les deux ont été réélus dès le premier tour, 80% pour Robert Ménard et plus de 60% pour 80% pour David Lisnard et plus de 60% pour Robert Ménard. Et c'est des affranchis des partis politiques, c'est-à-dire que bon, alors en plus on a vu, sans du timing de Valeurs Actuelles, que David Lisnard a démissionné des Républicains hier, mais avant même de démissionner, c'était déjà quelqu'un qui dont on sentait qu'il était mal à l'aise avec un parti politique qui effectivement peine à trouver une direction et qui agrège en lui des gens parfois contradictoires. Si on pense à Xavier Bertrand, qui pense pas exactement la même chose par exemple que François-Xavier Bellamy. Et quant à Robert Ménard, lui, il a réussi effectivement à mener sa barque sans s'adosser à un parti fort. Le RN avait présenté un candidat face à lui, et ça, il a réussi à résister à parfois ce que la tentation un peu hégémonique du RN. Et donc, pour moi, voilà, c'est un peu des exemples de personnalités qui essayent d'échapper au mauvais côté de l'ère du temps. Et donc, c'est pour ça qu'on les a mis à la une, et je suis désolé, je suis un peu trop bavard, mais...
Mais pas du tout, pas du tout.
Ce qui est, je trouvais assez formidable avec cette interview, c'est que ce n'était pas vraiment un entretien classique. C'est-à-dire qu'on a commencé à poser des questions, et puis au bout de 2 minutes 30, j'ai fait ça avec Sébastien Ligné, le chef du service politique, au bout de 2 minutes 30, Ménard et Lisnard s'engueulaient, se chambraient, se racontaient des anecdotes, se renvoyaient des noms d'oiseaux, et voilà, ça a donné ce qu'on a appelé une conversation passionnée, effectivement, entre ces désaffranchis, et voilà, j'espère qu'elle plaira à vos auditeurs qui auraient envie de la lire et qui tomberaient dessus.
Et en plus, il se tutoie. Effectivement, c'est très vivant. Alors, de temps en temps, les journalistes interviennent. Si l'on suit votre logique, Monsieur Ménard, Éric Zemmour aurait dû s'imposer. Et voilà. Et donc, la conversation est tout à fait passionnée. Il y a aussi cet article que je mentionnais juste avant que vous n'arriviez sur le désastre de l'attaque chine. Et là, vous avez une bonne enquête de terrain, comme on les aime. Vous êtes allé voir sur place à quel point ça a été non seulement inutile, mais en plus néfaste.
Incroyable. Donc c'est Marie de Greff, une journaliste du service économique qui a fait ce sujet. Et en gros, pour faire simple pour vos auditeurs, l'État a décidé de taxer les petits colis, 2 euros le petit colis, pour effectivement essayer de freiner l'afflux de colis venant de Chine et de Chine le pays, hein, et pour aussi essayer d'avoir un geste vertueux pour l'environnement. Alors, comme d'habitude, avec des décisions françaises, c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que le marché est plus intelligent que l'État, donc les gens, les cargos de fret, les avions cargos de fret, au lieu d'atterrir dans un aéroport qui servait à ça en Seine-et-Marne, ils atterrissent à Liège, à la frontière française, et ensuite ce sont des camions qui vident ces avions et qui roulent jusqu'en France, et qui en plus au passage ne nous rapportent aucune recette douanière. Donc c'est la double peine, on a l'absurdité écologique qui voulait soi-disant rompre, et en plus une baisse de recettes. Je ne vous parle même pas des emplois directs et indirects qui sont liés justement à ce fret en France, mais c'est vraiment, enfin, c'est assez spectaculaire. Hein. Vos auditeurs liront l'article. C'est-à-dire que en 3 semaines, le marché du fret en France s'est cassé la gueule. À Roissy, ça a baissé de 40%, je crois, si je me souviens bien du chiffre dans l'article. Donc voilà, une belle mesure stupide française, mal pensée, et dont on essaye de montrer qu'elle est absurde et qu'il faut revenir dessus, puisque par exemple l'Italie avait pris une mesure similaire, et comme les Italiens, on a un peu remarqué, vous et moi, qu'ils sont plus malins politiquement depuis quelques mois que nous, et ben ils sont tout simplement revenus sur la mesure et ils sont revenus au bon sens.
Merci beaucoup, Tuc Gueldeny, et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Valeurs Actuelles.
Merci beaucoup, Richard. Bon week-end.
Zone libre.
Et en zone libre, Maïlys Clozel, Louis Rigaudière et avec un peu de chance Alexandre de Galzin, sait-on jamais.
Peut-être.
Voilà, sont là avec moi pour nous livrer évidemment la manière dont l'actualité les a frappés cette semaine. Maïlys, avez-vous été frappé sévèrement? Avez-vous été frappé légèrement? Comment l'actualité vous a-t-elle traité cette semaine?
Bien écoutez, Richard, je suis toujours très frappé par l'actualité puisque le boulot de journaliste l'exige. Mais moi, ce qui m'a particulièrement choqué dans les dernières heures, hein, voilà, parce que c'est très récent, c'est forcément cet Espagnol dont on a parlé ce matin, qui, je crois, mérite qu'on en reparle à nouveau, puisque l'Assemblée nationale va en juin, encore une fois, de plus, essayer de faire passer cette loi. On voit bien qu'avec ce genre de choses, comme en Espagne, comme en Belgique, parce que le cas espagnol, là, avec Noelia, eh bien, il y a eu des cas assez similaires en Belgique il y a quelque temps. On voit bien que c'est finalement la porte ouverte à toutes ces dérives qui littéralement, en fait, tue des gamines de 25 ans. Bon, évidemment, on ne minimise pas du tout les souffrances qu'elle a pu percevoir, puisque effectivement, c'est horrible. Mais en réalité, si ça arrive en France demain, eh bien, ça sera. Je pense qu'il y aura des cas comme celui de Noelia qui, au lieu de lui porter les soins, on la met dans un cercueil. Pourquoi? Parce que finalement, ça coûte un peu moins cher à l'État de tuer les gens plutôt que de les aider. Et ça serait, pour moi, une entrave, finalement, à la civilisation, notamment la France, qui, accessoirement, a dans son pédigré des types comme Louis Pasteur, qui est quand même l'un des fers de lance, si j'ose dire, des progrès dans le domaine de la santé. Donc voilà, je trouve que c'est absolument lunaire d'en arriver là et de voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont favorables à ça. Ben, c'est d'autant plus lunaire, surtout quand on voit pas mal de gens de droite, entre guillemets, qui se disent pour l'euthanasie, puisqu'ils disent « oui, imaginez, j'ai un cancer incurable, etc. J'ai pas envie de souffrir, j'ai envie... De supprimer mes souffrances et donc de me supprimer moi-même. Mais quand on voit la porte ouverte aux dérives telles qu'on a pu l'observer en Espagne que ça ouvre, eh bien, je crois qu'il y a une grosse campagne de prévention justement à donner aux Français tant c'est des choses d'une gravité comme ça peuvent survenir dans notre pays.
Eh bien, voilà, nous y reviendrons la semaine prochaine avec vous, j'espère, pour si justement noter, analyser cette euthanasie.
Si on peut noter une chose positive à toute cette affaire, s'il y en a bien une, c'est qu'elle peut potentiellement faire basculer l'opinion, parce que l'ampleur que ça a pris, notamment en Espagne et dans plusieurs pays européens, puisqu'on en parle à échelle quand même internationale, peut-être ça peut avoir un effet. Reste à savoir ce que ça va donner en fin de compte.
Et espérons surtout qu'on ne nous présentera pas ça comme au contraire le triomphe de la douceur et de la miséricorde. Et vous, Louis, qu'avez-vous glané?
Eh bien, écoutez, alors moi, rapidement, et là encore, je n'ai pas de chance parce que je n'ai pas écouté la matinale à 7h pile. J'ai pris à 7h05, 7h06. Malheureusement, j'étais un petit peu en retard et j'ai vu que vous aviez déjà parlé d'une certaine Ultia, qui est une vidéaste, hein, pour éviter d'employer un mot anglais, une vidéaste, on va dire... plutôt à gauche, hein, pour rester un petit peu gentil, et qui concerne, oui voilà, très à gauche, et qui concerne un organisme public que vous connaissez sans doute, le CNC.
Centre National de la Cinématographie.
Ah bah moi j'avais noté cotisation de Nicolas pour le communisme, donc à mon avis ça doit pas être ça, c'est donc à mon avis oui vous avez raison, donc c'est un organisme public pour 1960, qui a été créé en 1960 pardon, et donc cette... j'allais dire encore un mot anglais, cette vidéaste donc sur internet a dévoilé qu'elle était un petit peu partiale dans l'attribution, parce qu'elle a été nommée jury du CNC, dans l'attribution des projets des créateurs de contenu sur internet, et malheureusement elle l'a dit en direct sur sa chaîne. Je vous ai découpé l'extrait, écoutez.
Pour celles et ceux qui ont loupé, je suis trop contente, mais cette année et pendant 2 ans, donc 2 années consécutives, je suis jury au CNC Talent, qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créateuristes de contenu web. Et moi, je vais être honnête avec vous, s'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet, en fait. Mais genre, sans déconner, tu vois. Enfin, c'est logique. Si demain, Rivenzy, il poste un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode « Bah ouais, mec !» Prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens en fait, c'est évident, c'est mon ami.
Aïe, ouais, c'est, voilà, malheureusement, ça a été dit publiquement. Vous aurez noté le créateurisme.
Mais
maintenant,
oui, créateurisme, j'ai lu éducateurisme l'autre jour sur AOL, une publication de gauche en ligne, donc ouais, c'est assez génial.
Maintenant, ils disaient créateur et créatrice, et maintenant ils disent créateurisme, voilà, ils créent des nouveaux mots, c'est magnifique.
Et donc, elle va saucer les projets graves.
Elle va saucer les projets, sans malheureusement, elle va pas pouvoir le faire très longtemps parce qu'elle a été suspendue, en tout cas, exclue du jury. Pardon. Évidemment, le CNC, le problème, c'est qu'elle l'a dit publiquement. Ça, c'est des choses, évidemment, qui se font et qui se font de manière naturelle, mais pas comme ça, pas aux yeux de tous, parce que évidemment les chiffres sont tombés. On voit que des vidéastes comme Jean Massier, qui est très à gauche, un animateur de l'émission Backseat, 160 000 euros du CNC, Street Press, que nous connaissons tous bien ici, 156 000 euros, Zawa Prod d'extrême gauche, 106 000 euros, Blast, 80 000 euros, etc. J'en passe, et tous ces noms ont un point commun, évidemment, c'est qu'ils incarnent un camp politique bien précis. Et j'attends encore de voir qui sont les animateurs patriotes qui ont gagné ne serait-ce qu'un euro de la part du CNC. Ça sera intéressant à creuser.
Bah, mais merci beaucoup, Louis Rigaudière. Effectivement, voilà, il y a quand même peu de chances que ce soit ces animateurs qui nous donnent de l'argent. Et d'ailleurs, profitons-en. Vous êtes en train de nous quitter sur YouTube et sur X, ou plutôt c'est nous qui vous quittons. On est en train de fermer les tuyaux. Mais cher Arnaud, puisque nous ne demanderons pas de subvention au CNC, que faut-il faire ?
Eh bien, nous demandons à nos auditeurs de nous subventionner, et c'est le cas depuis près de 40 ans. Donc, je vous invite à continuer à le faire si vous le faites déjà, et à le faire pour la première fois, ce serait une très bonne idée également. Vous pouvez faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr. Notez bien cette adresse, soutenir.rc.fr pour tout don en ligne. Et puis, vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et nous revenons tout de suite avec Grégor Pupinck sur le cas de Noelia Castillo Ramos et donc son euthanasie qui a eu lieu hier.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Grégoire Pupinck. Et on ne va pas parler de Français, mais on va parler du cas de Noelia Castillo Ramos, qui a été euthanasiée hier. Bonjour Grégoire Pupinck.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes juriste, vous êtes directeur de l'ECLJ. Pourquoi cette euthanasie, évidemment, nous interpelle ? Alors, c'est sans doute parce qu'elle cumule à peu près tout ce que nous n'aimons pas dans l'État moderne. Noelia Castillo Ramos a été retirée à ses parents par l'État espagnol. Selon eux, selon l'État, ses parents n'étaient pas capables de s'occuper d'elle. Elle a été placée dans un foyer. Dans ce foyer, elle a été violée par des mineurs non accompagnés, par des immigrés. Et à la suite de ce viol collectif, elle a tenté de se suicider. Elle est devenue paraplégique. Et à la suite de cette paraplégie, elle a ardemment souhaité mourir pour échapper aux souffrances qui étaient les siennes, à la fois psychologiques et ensuite physiques. Et donc l'État a fini par accéder à sa demande en notamment s'engageant dans une procédure judiciaire qui a permis à Noelia Castillo Ramos de s'opposer à son père qui lui-même ne voulait pas qu'elle soit suicidée par ordre étatique. On a là le cumul d'à peu près tous les dysfonctionnements possibles de l'État moderne.
Oui, c'est vraiment une histoire terrible de notre époque. Cette jeune femme qui est décédée hier soir à 18h aurait pu avoir une vie tout à fait différente si elle avait vécu dans un autre contexte. Et donc, dès l'enfance, elle a été marquée par son contexte familial défaillant. Comme vous l'avez dit, placée sous la responsabilité de l'État dans une institution pour mineurs, donc sous la tutelle de l'État. Là, elle a été agressée plusieurs fois, violée. À l'âge de 21 ans, violée par trois hommes. Peu après, elle saute d'un balcon pour finir ses jours. Elle survit. C'était en 2022. Elle survit, mais handicapée. Là, elle est soignée. Elle est soignée. Ses parents se rapprochent d'elle. Sa mère prend soin d'elle. Sa mère l'emmène faire des promenades au bord de la mer ailleurs. Et 2024, néanmoins, elle souffre toujours de souffrances physiques. Sa santé va mieux, beaucoup mieux. Elle retrouve une certaine motricité. Mais par contre, sa santé psychique reste très altérée. Elle est handicapée à 75% pour des raisons de handicap physique et psychique. Elle a une tendance suicidaire répétitive. Et en 2024, effectivement, elle demande l'euthanasie qui avait été légalisée peu avant 2021 en Espagne. Alors au départ, en Espagne, l'euthanasie est légale uniquement pour les personnes qui ont une maladie grave et incurable, avec une souffrance terrible, insurmontable, et qui sont capables de discernement. Et là, ce que l'on voit aussi avec cette affaire, toute la dimension humaine évidemment terrible qui est à l'image de notre époque, mais aussi un avertissement sur l'élargissement de l'application de cette loi sur l'euthanasie. Au départ, en Espagne, on ne pensait pas, en 2021, quand on a fait passer ce texte, qu'il pourrait être utilisé pour mettre fin à la vie d'une jeune femme de 25 ans. De 25 ans, qui souffre principalement de souffrances psychologiques. Et là, on a eu un exemple d'extension de l'application de cette loi à une telle situation. Elle était handicapée à 75%. Mais malgré tout, le juge et le médecin à qui elle s'est adressée ont estimé qu'elle est capable de discernement pour demander la mort. Et c'est vraiment terrible quand on voit quand on écoute cette jeune femme, elle s'est exprimée avant, quand on voit son visage, quand on l'entend, on voit à quel point elle est en souffrance profonde par tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, à quel point elle est désespérée par l'existence. Et que voilà, bah, notre société offre à une telle jeune femme de 25 ans simplement cet échappatoire qu'est l'euthanasie, et qu'on n'a rien de mieux à lui offrir. C'était terrible de voir le déchirement de la famille, les parents de Noelia qui évidemment n'ont pas été à la hauteur pendant toute leur vie, certaines époques, mais qui ont à la fin essayé de la sauver. C'est eux qui ont exercé des recours en justice pour essayer d'empêcher l'euthanasie de leur fille jusqu'au bout, tout en la soutenant, c'est-à-dire que la mère dit, voilà, elle la soutient jusqu'au bout, même dans ces moments finaux, mais en même temps, elle fait ses démarches pour empêcher l'euthanasie, et elle promet tout ce qu'elle peut comme soutien, comme aide à sa fille. Mais là, encore une fois, ça n'a pas abouti. Alors pour nous, Français, oui.
Oui, non, pardon, oui, juste avant qu'on revienne à la manière française, je voudrais souligner deux choses dans ce que vous avez dit. C'est, d'une part, on n'imaginait pas que la loi pouvait être étendue à ce genre de cas, alors que dans tous les autres pays, et notamment le Canada et la Belgique, où ce type de loi est passé, eh bien, systématiquement, la loi a été étendue. Donc, on commence par le petit nombre, et finalement, c'est une tache d'huile qui va s'étendant sans cesse. D'ailleurs, les partisans de l'euthanasie le disent systématiquement aussi, et on a les citations de l'un des fervents propagandistes de l'euthanasie en France qui explique qu'on va commencer par parler de la maladie de Charcot, mais ce qu'on vit, c'est que tout le monde puisse y avoir droit, sans aucune retenue d'âge, de conditions physiques, de conditions mentales. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand même, c'est... Les parents ont été défaillants, vous l'avez souligné, en tout cas l'État a jugé que les parents étaient défaillants, et donc l'État jugeait qu'il était plus capable que les parents d'éduquer cette jeune femme, et au bout du compte, la seule chose qu'il a réussi à faire, cet État, c'est qu'elle soit violée, in fine, par ces trois personnes, et qu'elle ait été auparavant aussi victime, en fait, d'autres brimades sexuelles, etc. Autrement dit, c'est l'État qui est purement défaillant, et l'État ensuite s'enorgueillit de lui proposer comme solution miséricordieuse de mourir. Et voilà. Donc l'État, en fait, efface ses propres fautes en ayant tendance à déguiser, en fait, sa faillite sous cette espèce de miséricorde progressiste qui consiste à promettre l'anéantissement.
Oui, l'État, à la société espagnole, mais on pourrait dire la même chose de la France, était complètement défaillante. Effectivement, elle a été agressée plusieurs fois. Donc le viol de 2020, ce n'était que le dernier événement le plus grave. Mais avant, déjà, évidemment, elle a été agressée dans ce foyer pour mineurs où elle était... elle a été agressée par des mineurs étrangers, non accompagnés, oui, comme on dit dans le langage courant.
Donc, autrement dit, par des immigrés. Donc là aussi, c'est voilà. L'État qui fait en sorte de créer les conditions de l'horreur.
C'est ça. Donc, si cette jeune femme avait été dans un cadre protecteur, comme il en existe quand même... eh bien, elle aurait pu avoir une belle vie. Sa vie n'était pas foutue d'emblée. Donc, c'est effectivement l'État qui n'a pas su la sortir, la protéger, et qui ensuite, devant la situation de détresse, n'a pas su non plus lui rendre espoir et simplement lui proposer l'euthanasie. Et alors, on dit oui, le glissement. En fait, il faut comprendre que les personnes qui sont en grande souffrance physique, psychologique, pour elles, la tendance suicidaire, c'est plutôt un symptôme de la maladie. C'est un symptôme. Or là, on prend le symptôme comme motif légal pour permettre l'euthanasie. Cette femme, bien sûr qu'elle est suicidaire, qu'elle était suicidaire, bien sûr, mais est-ce que c'est une raison pour autoriser l'euthanasie sur elle? Et donc, oui, c'est terrible. C'est terrible. Alors, le glissement est certain parce que pour toutes ces personnes qui sont fragilisées par la vie, qui sont en souffrance, mais c'est différents types de souffrances. Si vous leur montrez la porte, permettre l'euthanasie, en fait, c'est déjà inviter les gens à l'employer. C'est ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'ont compris les promoteurs de l'euthanasie, c'est que des mesures telles que l'euthanasie fonctionnent mieux auprès de la population lorsqu'elles sont présentées comme une liberté plutôt que comme une contrainte. Les organisations qui promeuvent l'euthanasie sont héritières des organisations des années 30 qui, au départ, par militer pour l'euthanasie contrainte sur les personnes telles que Noélia, c'est-à-dire les personnes ayant un trouble psychique grave. Ensuite, depuis les années 70, on présente sur deux mesures, euthanasie, stérilisation, avortement, comme une liberté. Et en présentant cela comme une liberté, figurez-vous que ça marche beaucoup mieux. L'affaire de Noélia me fait penser à une affaire d'il y a 100 ans, figurez-vous, à la Cour suprême des États-Unis, c'était l'affaire Buck. L'affaire Buck, c'était pareil, c'était une jeune fille, une jeune femme placée dans un foyer, une jeune femme avec un trouble psychique placée dans un foyer aux États-Unis, violée, et qui, en raison de ce viol, a été jugée comme devant être stérilisée. Et à l'époque, il y avait un débat aux États-Unis. Les organisations de promotion de la stérilisation ont utilisé l'affaire de cette jeune fille violée dans un centre pour mineurs pour légaliser la stérilisation. Ensuite,
la stérilisation forcée.
Forcée. Des personnes faibles d'esprit, ça veut dire ayant des troubles psychiques. Ensuite, il y a eu des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis qui ont été stérilisées de façon forcée. Les lois américaines ont servi d'exemple dans d'autres pays, y compris en Allemagne. Et ce n'est que dans les années 60 et 70 que ces lois ont été retirées, après avoir fait des ravages dans la société américaine et dans d'autres pays. Là, nous avons le même cas de figure, une jeune femme dans un foyer, violée, qui demande l'euthanasie. Et là, le législateur qui le permet, le juge qui l'autorise. Et c'est un précédent qui malheureusement risque de se répéter. Et il faudra du temps, probablement, pour que la société espagnole en sorte. Et donc je souhaite évidemment pour la France qu'on ne tombe pas dans ce piège qui est vraiment un piège d'inhumanité et de facilité. Parce qu'aux États-Unis, quand on a permis cela, c'était par facilité. Et en Espagne, si on permet aussi l'euthanasie, c'est aussi par facilité.
Et il nous reste 2 minutes. Et l'État français, dans la manière qu'il a d'envisager l'euthanasie, à travers la loi qui est en cours de discussion, ouvre la porte précisément à toutes ces dérives, avec l'absence absolue de garde-fous pour empêcher l'euthanasie et au contraire la multiplication non pas des garde-fous, mais des herses qui sont mises contre ceux qui voudraient prévenir l'euthanasie.
C'est ça. Exactement. Et donc là, ce qui s'est passé en Espagne, en fait, c'est que le fait que les parents puissent contester en justice ne serait pas possible avec la loi française, telle qu'elle est débattue actuellement au Parlement. Parce que le texte français prive les parents du droit d'être informés. Ça veut dire que lorsque, comme dans l'affaire espagnole, il peut y avoir des problèmes relationnels entre l'enfant ou la personne qui souhaite mourir et ses proches, la loi française prévoit que les proches n'ont pas un droit à être informés. C'est la personne qui souhaite mourir qui décide si elle les informe ou non. Donc si votre enfant, votre conjoint, vos parents souhaitent mourir et que celle-ci ne veut pas vous informer, vous n'en saurez rien. Deuxièmement, le texte français prive toute autre personne du droit d'agir en justice pour contester la décision du médecin d'autoriser l'euthanasie. Ça veut dire que des parents ne pourraient pas agir en justice pour défendre la vie de leur enfant dans le contexte de la loi débattue en France actuellement. Et c'est évidemment une façon de laisser encore plus la personne en souffrance dans son isolement. Parce que les gens qui souffrent ont tendance naturellement à s'isoler. Et pour les aider, il faut pouvoir les sortir de cet isolement. Or, ce délit d'entrave et cette interdiction d'agir en justice pour les aider les enfonce davantage encore dans leur solitude et les livre encore plus à la prédation, on peut dire, ou simplement à la négligence, aux mauvaises intentions de ceux qui souhaiteront se débarrasser d'eux par l'euthanasie au nom d'une fausse liberté.
Merci beaucoup Grégoire Pupin. Et évidemment, tant que cette loi maudite est en cours de discussion, vous reviendrez sur Radio Courtoisie pour nous alerter sur ces dangers. À bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous toute cette matinée. Et évidemment, nous vous l'avons déjà demandé, mais c'est le moment de vous le rappeler. Vous êtes 1 million à nous écouter chaque semaine. Nos audiences caracolent en tête, on frôle Europe 1, on est absolument ravis. Arnaud, comment faire pour poursuivre cette belle réussite?
Eh bien, il faut continuer l'effort, tout simplement, en nous en aidant en ligne sur soutenir.rc.fr et en adressant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Je rappelle que vous êtes notre seule ressource financière.
Et avec tout ça, on fait d'excellentes émissions. Et par exemple?
Par exemple, dans un instant, Promenade des Flandres au domaine de poésie de Pascal Payen-Penzeller, ou encore à midi en direct, le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui le sujet est Le monde s'embrase. À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Simon, consacré à Jacques Sade. 17h30, Restons courtois, dirigé en direct par Marc Baudrier, à suivre sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie, ainsi que sur X. Municipal, ce que signifie le réveil patriote d'une région, la Bretagne. Les 4 vérités de Bolloré, invité de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Un clin d'œil culture. Et puis à 19h30, le libre journal de Philippe Pichot-Bravard, Et puis à 21h30, excusez-moi, j'en perds le fil, prolongation dirigée en direct par Stanislas Rigaud. Et puis nous terminerons la soirée avec Chant Grégorien, émission dirigée par Patrick Banken et consacrée cette semaine au second dimanche de la Passion ou dimanche des Rameaux.
Merci Arnaud et je ne vous dis pas à demain car demain c'est samedi, donc rendez-vous tous lundi matin.
Un très bon week-end à tous.